Jean-François Henry, docteur en histoire et auteur, il est propose de découvrir l'histoire maritime et fluviale des pays de la Loire dans un livre paru aux éditions 303 et premier titre de la collection Essentielle, patrimoine en région. Bonjour Jean-François.
Bonjour.
Ce livre a pour but de valoriser et transmettre l'histoire maritime des pays de la Loire au plus grand nombre, non ?
Oui, tout à fait. C'est la première fois qu'on va associer deux départements, donc la Loire-Atlantique, la Vendée, et la Loire, en gros, jusqu'à au niveau du Maine-et-Loire.
Une invitation au voyage maritime de la préhistoire à nos jours.
Voilà, l'enjeu, c'est d'arriver à intéresser les gens, aller à l'essentiel, et quand on va à l'essentiel, ben, on fait des choix, et les choix sont toujours douloureux.
Quel choix douloureux as-tu eu à faire ?
Ben, c'est d'arriver à équilibrer, parce qu'on a beaucoup plus d'informations sur les périodes récentes, qui est normal, mais en même temps, il ne faut pas oublier ce qui fait le fondement même de notre société, avec notamment les souvenirs de la préhistoire et puis de l'Antiquité et du Moyen-Âge.
La préhistoire, embarcation, monoaxile.
Voilà, c'est des bateaux qui étaient creusés dans des troncs d'arbres et on a eu la chance d'en trouver, qui étaient enfouis dans la base et qui étaient conservés.
Tu nous l'as dit, un littoral en constante évolution, les modifications les plus importantes sont arrivées à quelle période ?
Alors les modifications, elles sont, on pourrait dire, de trois niveaux. D'une part, il y a ce qui va être essentiel, c'est pendant des siècles la production du sel. Il faut savoir que la baie de Bourgneuf va être le centre européen de production du sel, à une époque où le sel ne sert pas qu'à relever les plats, mais surtout à conserver. C'est en quelque sorte
conserver le poisson.
Voilà, non seulement le poisson, mais les viandes. Tout se conserve dans le sel.
Parce que les souvenirs des premiers bateaux qui allaient au thon, ils conservaient le thon dans le sel.
Tout à fait. Et alors, ils le conservaient surtout, dans un premier temps, suspendu par la queue, mais quand ils voulaient le consommer, ils le consommaient conservé dans le sel. Et puis, le sel sert donc aussi bien pour les viandes que pour le reste. Donc, ça va être, tous les bateaux vont venir, notamment du nord de l'Europe, et comme ils ne peuvent pas venir sans l'Est, ils viendront avec des pierres de l'Est. Et il faut savoir que, par exemple, le croisic qui représente donc le marais salant de Guérande, il y a les rues sont pavées avec des pierres qui viennent de Scandinavie. C'est la même chose à Bourgneuf-Henry.
Le sel, ça a été vraiment une part importante.
Ça a été une part essentielle de l'économie des pays de la Loire littorale.
Hein ? De quand à quand ?
Oh, on pourrait dire de l'Antiquité jusqu'au XVIIe siècle. Donc ça va être la période vraiment essentielle. La deuxième, si on reste dans cette même lignée, ça va être la découverte de la conserverie par la découverte de Appert, c'est-à-dire par la stérilisation. Où là, à ce moment-là, nos régions qui étaient des régions de pêche, qui étaient essentiellement pour la nourriture de la population, vont se faire de beaucoup plus industrielles. Et pour l'île-dieu, eh bien, ça va amener à avoir 4 voire 5 conserveries.
Ces conserveries étaient très importantes dans le maillage du travail à l'île-Dieu.
Du travail non seulement à l'île-Dieu, mais sur toute la côte, notamment bretonne, avec toutes les conserveries de poissons. Alors la troisième, ça va être la construction navale, qui là va être capitale. Alors,
les chantiers navals notamment de Saint-Nazaire, non ?
Alors dans un premier temps, c'est Nantes. C'est Nantes, avec notamment les chantiers de la Chésine. Et là, on va voir des constructions magnifiques. Et puis progressivement, le tonnage va augmenter et la Loire va s'envaser. Et on aurait pu imaginer à ce moment-là que les Nantais baissent les bras et au contraire, ils vont donc construire en aval un port beaucoup plus d'eau profonde et ça va être la construction de Saint-Nazaire au détriment de Paimbœuf. La dernière évolution, c'est celle que l'on vit actuellement, c'est-à-dire le défi en quelque sorte bleu d'avoir une économie toujours en développement et la protection de la nature parce que nous avons la chance d'avoir une région qui est quand même très bien préservée.
L'île-Dieu a-t-elle eu une part importante dans l'évolution de cette histoire maritime que tu nous as parlé, entre autres, des conserveries ?
Voilà, alors l'île-Dieu a un déroulement un peu spécifique, puisque l'île-Dieu...
Parce que c'est une île ?
C'est une île, mais va avoir, parce que ça m'amuse quelquefois lorsque les gens viennent à l'île-Dieu, ils disent « Oh, les petites maisons de pêcheurs ». Bon, il faut savoir que au départ, ce n'est pas des pêcheurs, ce sont des caboteurs. Les gens de l'île-Dieu ont été tardivement des pêcheurs, parce qu'ils ne savaient pas conserver le poisson en dehors. Alors, technique spécifique de l'île-Dieu, là, c'est une petite parenthèse, c'est le fameux vnew.
Le vnew, c'est quoi ?
C'est le séchoir à poisson, c'est-à-dire que c'est en patois du Poitevin, c'est le vignot, c'est-à-dire qu'on monte à hauteur une dizaine de mètres Donc, le poisson que l'on va sécher à l'abri des mouches.
Notamment bon, des maquereaux, non ?
Des maquereaux, mais surtout des pièces très, très lourdes, comme par exemple le congre. Donc, on fait sécher le congre, on le sale, on le sèche, et après, on le consommera. Mais c'est quand même très rudimentaire. Et donc, grâce à cela, progressivement, le cabotage, qui fait la gloire de l'île-Dieu au XVIIe et XVIIIe siècle, sera remplacé malheureusement par l'arrivée du train, donc ça aurait pu être pour les lieux la catastrophe, et heureusement la conserverie de poissons grâce à Appert et de Colin, puisque Colin va inventer la boîte de métal.
Va la boîte de sardines entre autres.
La boîte de sardines, de maquereau, etc. va permettre de développer à l'île-Dieu 4 conserveries, et 5 jusqu'à une certaine époque. Chaque conserverie employait à peu près 400 à 500 personnes, ce qui était quand même considérable.
Et ce poisson transformé partait partout dans la région Pays de la Loire, non ?
Alors, un peu partout, oui, effectivement, puisqu'on en avait aussi bien au Croisic, à la Turballe, qu'à Croix-de-Vie, au Sable-d'Olonne, même à Fromentine. Si on arrive un petit peu en avant sur le bateau, on peut, sur le remblai de Fromentine, voir toute une série de photographies des conserveries de Fromentine.
Un livre illustré également par des photos nombreuses.
Alors, c'est le choix qui a été pris par cette collection donc, de 303, dirigée par les Pays de la Loire, de privilégier l'iconographie. Donc là, on a une iconographie qui est riche, aussi bien de paysages que de documents d'archives.
Notamment des bateaux.
Alors, notamment des bateaux, mais aussi des tableaux, etc. Quoi. On a toute la diversité. Dernière chose quand même que je n'ai pas citée, mais là, elle n'est pas spécifique au Pays de la Loire, c'est l'arrivée à partir du XXe siècle du tourisme. Parce qu'il est évident que le tourisme va révolutionner la vie quotidienne sur les côtes. Et c'est vrai que le tourisme va modifier de façon considérable les paysages.
Quelle partie du livre a été pour toi la plus enrichissante à travailler ?
Difficile à dire. Pas parce que chaque partie a son originalité. C'est vrai que ce n'est pas simple d'arriver à aller à l'essentiel et au fur et à mesure qu'on se rapproche de l'époque contemporaine, les choix deviennent de plus en plus difficiles.
Il y a 8 grands chapitres à découvrir dans ce livre, comme on le disait tout à l'heure, de la préhistoire à nos jours.
Voilà, c'est à peu près, alors avec progressivement, mais vous voyez par exemple, pour le Moyen-Âge, il y a deux découvertes qui sont à mon avis essentielles, c'est le fait par exemple que le roi anglais Richard Cœur de Lion, qui a son château à Talmont, vit beaucoup plus à Talmont et en Vendée qu'en Angleterre. Ça, c'est des choses qui sont très surprenantes. Et puis, on va aussi avoir le développement avec Louis XI des Sables d'Olonne aussi. C'est quelque chose de très étonnant. Les Sables d'Olonne étant un port qui arrivera après Talmont.
La dernière partie du livre, tu nous en as parlé, les nouveaux défis de la croissance bleue.
Oui.
Quels sont ces enjeux pour toi ?
Eh bien, les enjeux, c'est d'arriver à équilibrer, car il ne faudrait pas...
Équilibrer la pêche et le tourisme, non ?
Équilibrer la pêche et le tourisme, mais aussi toute la partie industrielle. Il faut voir, j'étais la semaine dernière à Saint-Nazaire, il faut voir l'énormité des paquebots, c'est impressionnant. On a l'impression que ce sont des immeubles dans Saint-Nazaire.
C'est des immeubles qui flottent.
Des immeubles qui flottent, et quand ils sont dans les cales, on a l'impression qu'ils font partie du paysage. Et comment arriver à avoir un avenir raisonnablement développé tout en protégeant la nature ?
Cette évolution, la photo est vraiment surprenante en page 160. On retrouve toutes les catégories de bateaux, que ce soit les bateaux de transport, les petits bateaux, les voiliers.
Voilà, donc c'est un peu une sorte de résumé de l'histoire de nos bateaux. Et c'est vrai que les Pays de la Loire est en quelque sorte pionnière dans la... Dans le souci de préserver ce patrimoine. Le Mutin, dont l'île-Dieu est la marraine, eh bien le Mutin est le plus vieux bateau de la marine nationale. Et le Mutin jouxte dans la présentation aussi bien le Couroune, le bateau qui est le Toumelin, qui est au Croisic, ou tout simplement le bateau Lavoire, les bateaux Lavoire de Laval.
Ce livre a reçu le prix de l'Académie de Marine Mention 2021. Ça doit te faire plaisir tout de même, Jean-François.
C'est toujours un grand plaisir d'être reconnu, parce que c'est vrai que le travail d'écriture est un travail solitaire.
Ça t'a pris combien de temps ?
Une année et demie, à peu près.
C'est pas énorme ?
Non, parce qu'on est plutôt dans la synthèse. Hein. Il n'y a pas un travail de recherche comme quelquefois on peut le faire, mais c'est un travail qui est intense. Je dirais un an et demi, mais à 8 heures par jour quand même. Hein. Et puis, on a eu des difficultés, il faut le dire, hein, de constituer l'iconographie, puisque nous étions en Covid et que pas mal de centres de dépôt d'archives étaient fermés ou difficilement consultables.
L'histoire maritime et fluviale des Pays de la Loire est à découvrir aux éditions 303. Ce livre est disponible à la Maison de la Presse de Lille-Dieu, Jean-François.
Bien évidemment.
Merci Jean-François, à très bientôt.
Bonne soirée, au revoir.